J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme des larmes sous la pluie. Il est temps de mourir. Bienvenue dans la langue brune. Bienvenue dans l'émission de la langue brune, la première de la saison 2016. Pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être reconnu la réplique de Roy Batty tirée du célèbre film Blade Runner de Ridley Scott. Film inspiré du roman d'anticipation « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » écrit par Philip K. Dick en 1966. Et cette réplique est dite par un réplicant, qui est le nom donné aux humanoïdes dans le film. Et ce terme de réplicant est également utilisé dans les livres que je vais vous présenter, puisque pour cette première de la saison, le genre de la science-fiction est à l'honneur. Avec les aventures de la détective Brunahusky, qu'on peut retrouver dans deux tomes, Des larmes sous la pluie et Le poids du cœur. C'est aux éditions Métayer et c'est écrit par Rosa Montero. Pour l'écriture de cette série, Rosa Montero use des codes du roman noir et de la science-fiction, parce qu'au-delà de la fiction spéculative, comme on peut le voir dans la célèbre série Dune de Frank Herbert, où on trouve plutôt un univers technologiquement avancé, mais où la société connaît encore une structure féodale, ici on s'attarde davantage sur la question de la définition de l'humain, chère à Philip K. Dick, où les plus humains ne sont pas forcément ceux que l'on croit. L'auteur a aussi particulièrement travaillé son background. On est baigné dans un climat de paranoïa générale, on y trouve des problématiques contemporaines, hein, comme des discours extrémistes alimentant une nouvelle guerre froide entre terrestres et mondes en orbite autour de la Terre. L'histoire se déroule en 2109, après des décennies de catastrophes successives, des guerres et des génocides. Et quant à l'histoire, c'est celle de Brunahusky, la protagoniste, qui est un réplicant à l'espérance de vie nettement réduite par rapport à celle des humains et qui ne cesse de répéter à rebours comme un mantra le temps qui lui reste à vivre. On aurait pu intituler le roman de Rosa Montero « Blade Runner » tant le film de Ridley Scott imprègne ses pages et crée comme ça une atmosphère addictive. Cela faisait presque 2 semaines que Bruna avait terminé son précédent contrat et elle n'avait pas trop d'économies dans lesquelles puiser. Les États-Unis de la Terre traînaient une perpétuelle crise économique depuis l'unification, mais ces derniers temps, il y avait comme une crise à l'intérieur de la crise et toutes les affaires étaient à l'arrêt. Il fallait qu'elle trouve d'urgence un client, si bien qu'elle décida de sortir faire ce qu'elle appelait une tournée d'information. Aller faire un tour et essayer de parler avec ses contacts habituels, pour voir ce qui se mijotait dans le coin et s'il y avait quelqu'un à qui elle pourrait offrir ses services. Elle regarda l'heure, 23h10. Elle pouvait se rendre à la gargote d'Oli, au liard, et manger un morceau au passage. Malgré la frénésie de sang et d'égorgement qu'elle venait de voir, elle avait faim. Ou peut-être qu'elle avait faim justement à cause de ça. Rien n'ouvrait autant l'appétit que le spectacle de la mort des autres. 4 ans, 3 mois et 24 jours. C'était le mois de janvier, le mois le plus frais d'un hiver bref et doux, et il faisait une nuit parfaite pour marcher. En utilisant les tapis roulants pour certains tronçons, Bruna arriva au bar d'Oli en 20 minutes. C'était un local étroit et rectangulaire, occupé dans sa quasi-totalité par un vaste comptoir qui, à son tour, était presque totalement occupé par l'énorme personnalité d'Oli, par ses formes opulentes et par son hospitalité également démesurée. Oli ne faisait jamais la fine bouche devant personne, qu'on soit techno, bestiole ou mutant. Sa clientèle était donc instructivement variée. « Salut, Husky. Quel bon vent t'amène ?»« La faim, Oli. Sers-moi donc une bière et un de ces sandwichs aux algues et aux pignons que tu réussis si bien. » La femme sourit au compliment avec une placidité de baleine et se mit à préparer la commande. Ses mouvements étaient toujours étonnamment lents, mais elle se débrouillait inexplicablement pour servir avec efficacité tout le local à elle seule. Certes, le bar était petit, 10 tabourets le long du comptoir et 8 autres collés au mur d'en face sous une maigre étagère d'appui qui courait le long de la cloison, mais l'endroit avait son succès et dans les moments forts, il pouvait s'entasser là-dedans jusqu'à 30 de clients. À présent, cependant, il était à moitié vide. Bruna regarda autour d'elle. Il n'y avait qu'une seule personne qu'elle avait déjà vue par ici auparavant. Elle était assise à l'autre bout du comptoir et c'était une femme publicité de Texaco Repsol. Elle portait un uniforme horrible aux couleurs de la firme, couronnée d'un bonnet ridicule. Les écrans de sa poitrine et de son dos reproduisaient les stupides messages publicitaires de l'entreprise dans une boucle sans fin. Normalement, on ne laissait pas les gens publicités entrer dans les bars parce qu'ils étaient très gênants. Mais Oliar avait le cœur aussi gros que ses gigantesques seins et leur permettait de se mettre au fond, à condition qu'ils baissent le plus possible le volume de la publicité. Ce qui était généralement très peu, hélas, car ces écrans ne pouvaient pas être réduits au silence ni déconnectés. Il fallait être un pauvre malheureux et n'avoir vraiment pas eu de chance dans la vie pour finir dans un emploi pareil. Les gens publicités ne pouvaient retirer leurs vêtements que 9 heures par jour. Le reste du jour, ils devaient se trouver dans des lieux publics, ce qui signifiait, comme ils n'étaient admis dans aucun bar, qu'ils passaient leur journée à errer dans la rue comme des âmes en peine, avec ces slogans publicitaires assourdissants perpétuellement dans les oreilles. On leur donnait à peine quelques centaines de Gaïa pour cette torture, même si, dans le cas présent, avec Texaco Repsol, cette femme devait sans doute avoir aussi l'air gratis. Ce qui était important, car de plus en plus de gens ne pouvaient plus se payer un air respirable et devaient partir s'installer dans une des zones polluées de la planète. En réalité, beaucoup auraient tué pour avoir ce travail à la con. Bruna décida d'aller courir. La fatigue physique était le meilleur des tranquillisants. Elle enfila un vieux pantalon de sport et une paire de baskets et sortit de chez elle. Quand elle mit le pied dehors, il était minuit pile. Elle partit comme une flèche en direction du parc, d'abord si vite et n'importe comment qu'elle se retrouva aussitôt à bout de souffle. Elle réduisit sa foulée et tâcha d'adopter une allure équilibrée, de respirer correctement, de placer son corps. Elle entra peu à peu dans la cadence apaisante et hypnotique des bonnes courses, ses pieds, presque en apesanteur, touchant le trottoir au rythme des pulsations de son cœur. Sur sa tête, les écrans publics déversaient leurs éternels messages crétins, des pitreries d'enfants, des clips musicaux, des images privées des dernières vacances de quelqu'un ou des actualités couvertes par des journalistes amateurs. Sur un écran, elle vit un Inst exploser dans la grande via, sans causer heureusement d'autres morts que la sienne. Par chance, les terroristes instantanés étaient pour l'heure si incompétents et si empotés qu'ils ne réussissaient presque jamais à causer de gros dégâts, pensa l'androïde. Mais quand ces détraqués anti-système auraient appris à s'organiser et à bien fabriquer leurs bombes d'arrière-cuisine, les Inst allaient devenir un cauchemar. Chaque semaine, il y en avait un qui s'immolait dans Madrid pour on ne savait trop quelle raison. Bruna entra dans le parc par la porte à l'angle de la rue et traversa l'enceinte en diagonale. Ce n'était pas un parc végétal, mais un poumon. La REP aimait courir entre les rangées d'arbres artificiels parce qu'il était plus facile d'y respirer. Ils absorbaient beaucoup plus d'anhydride carbonique que les parcs authentiques et leur concentration élevée en oxygène se constatait vraiment. Yanis lui avait raconté que, des dizaines d'années auparavant, les arbres artificiels étaient construits plus ou moins à l'imitation des vrais arbres. Mais depuis longtemps maintenant, on avait abandonné ces formes absurdement mimétiques pour rechercher un design plus efficace. L'androïde connaissait au moins une demi-douzaine de modèles d'arbres, mais ceux de ce parc poumon, propriété de Texaco Repsol, étaient comme d'énormes banderoles en très fine résine métallique, presque transparente, des lanières flottantes d'un mètre de large sur peut-être 10 de haut qui se balançaient dans le vent et produisaient de petites stridulations de cigales. Passer à travers le parc était comme franchir les fanons d'une immense baleine. Elle trotta pendant une minute sans savoir très bien où elle allait, avant de comprendre qu'elle se dirigeait vers Nuevos Ministerios, un des repères marginaux de la ville, une zone de prostitution et de vente de drogue. Peut-être qu'elle pourrait y trouver un dealer de mémoire. Ce n'était pas l'endroit le plus recommandé pour se promener la nuit et sans armes, mais d'un autre côté, une REP de combat en train de faire du sport ne devait pas être non plus l'objectif rêvé des malfaiteurs. Malgré son nom, les Nuevos Ministerios étaient très vieux. Ils avaient été construits 2 siècles plus tôt en tant que centre officiel. Il s'agissait d'un ensemble de bâtiments reliés entre eux qui formaient une gigantesque masse en zigzag et avait dû être un mastodonte de béton hideux et inhospitalier dès l'instant de son inauguration. Pendant les guerres robotiques, les Nuevos Ministerios avaient été utilisés pour reloger les personnes déplacées et ensuite, il n'y avait plus eu moyen de les sortir de là. Les réfugiés du début avaient sous-loué illégalement des chambres à d'autres locataires et le cadre s'était rapidement dégradé. Les fenêtres étaient cassées, les portes brûlées et les anciens jardins étaient devenus des esplanades crasseuses et vides. Mais il y avait aussi des bars grouillants, de sordides fumeries de dalamine, des cabarets miteux, tout un monde de plaisirs illégaux gouvernés par les bandes du coin qui se chargeaient de payer les droits de l'air. Bruna arriva au périmètre extérieur de Nuevos Ministerios et passa devant le Cometa, le club le plus célèbre du coin. Un antre à la croisée des mondes où se rendait une certaine clientèle huppée, désireuse de faire un tour du côté sombre de la vie. La musique était assourdissante et il y avait pas mal de monde aux abords de la porte. Des corps alloués pour la plupart, évalua la détective d'un rapide coup d'œil. Juste à ce moment, un gars à l'allure adolescente se plaça à son niveau et se mit à trottiner à ses côtés. « Salut l'athlète, je vois que tu aimes le sport, t'as envie de faire de la gym avec moi à l'intérieur ?»« Je fais des merveilles. » Bruna le regarda. Il avait les yeux caractéristiques à pupille verticale, mais semblait bien trop jeune pour être un androïde. Bien sûr, il avait pu se faire une opération esthétique. Mais le plus probable était qu'il portait des lentilles pour ressembler à un REP. Beaucoup d'humains éprouvaient une curiosité sexuelle malsaine à l'égard des androïdes, et les prostituées en profitaient. « Tu es humain ou techno ?» Le garçon la regarda perplexe, soupesant la réponse qui conviendrait le mieux. « Tu préfères que je sois quoi ?»« En vérité, je m'en fous complètement. C'était de la curiosité, pas de l'intérêt. » »« Allez, laisse-toi aller, j'ai des bonbons, qualité top !» Des bonbons. Comprendre, de l'ocytocine, la drogue de l'amour. Une substance légale que les couples stables achetaient en pharmacie pour améliorer ou reverdir leur relation. Toutefois, les bonbons étaient des cocktails explosifs d'ocytocine à forte dose combinés à d'autres neuropeptides synthétiques. Une véritable bombe, interdite bien sûr, que Bruna avait déjà prise et qui avait un effet fulminant. Mais ce n'était ni le lieu, ni le moment. L'ascenseur était un cylindre à trois niveaux traversé en son axe par le câble. À chaque niveau, 20 places. Uskimalo et Doytown se trouvaient à l'étage le plus bas, dans le sens de la marche. Pas de chance, car c'était celui qui vibrait le plus avec le mouvement et dans lequel il était le plus probable d'avoir la nausée. Les trois étages étaient pleins. Pour un moyen de transport entre deux États sans relation diplomatique, il s'avérait étonnamment populaire. Certes, il n'y avait qu'un seul véhicule par jour, c'est-à-dire deux, un pour l'aller et l'autre pour le retour. Comme le trajet durait deux jours, il y avait en tout quatre cabines effectuant le parcours en même temps. En outre, 10 sièges de chaque ascenseur étaient réservés à des usages officiels. Les places étaient vendues longtemps à l'avance et l'androïde supposa que leurs deux billets avaient été obtenus en ayant recours à la zone réservée. Elle se leva pour étirer ses jambes et ce faisant, elle prit conscience de l'oscillation légère et constante de la cabine et eut mal au cœur. Tout à coup, la réalité lui fit l'effet d'un voile peint qui pouvait se déchirer à chaque instant. Le monde avait perdu ses coordonnées spatiales et se ramollissait, se déformait, se fondait. Bruna s'agrippa au dossier du fauteuil et respira profondément, son cœur battant la chamade dans ses tempes jusqu'à ce que les choses retrouvent leur poids, leur solidité réconfortante. Il montait le long du câble de nanotubes à une vitesse moyenne de 700 km/h. Elle essaya de visualiser le mécanisme. Une corde fine et extrêmement longue qui ondulait et se perdait dans l'obscurité interplanétaire. Car l'ascenseur était pendu à un contrepoids situé à 96 000 km de la Terre, presque un tiers de la distance de la Lune, comme un fil qui est pendu à son araignée. Penser à tout cela lui fit ressentir encore plus la petitesse de cette boîte dans laquelle elle se trouvait, la légèreté éthérée de son ascension météorique. Le vertige montra à nouveau le bout de son nez et la REP décida de s'asseoir et d'en profiter pour jeter un œil à la documentation de Yanis. Au milieu du XXIe siècle, les projets d'exploitation géologique de Mars et de deux satellites de Saturne, Titan et Encelade, encouragent la création d'un androïde capable de résister aux dures conditions atmosphériques des colonies minières. En 2053, l'entreprise brésilienne de bio-ingénierie Vitae développe un organisme à partir de cellules mères cultivées en laboratoire de manière accélérée et pratiquement identique à l'être humain. Il est mis sur le marché sous le nom d'Homolab, mais devient très vite connu comme répliquant, un terme tiré d'un vieux film futuriste très populaire au XXe siècle. Les réplicants jouissent d'un succès immédiat. Ils sont utilisés non seulement dans les exploitations minières de l'espace intersidéral, mais aussi dans celles de la Terre et dans les fermes marines abyssales. Des versions spécialisées se mettent à voir le jour et en 2057, quatre gammes distinctes d'androïdes existent déjà. Exploitation minière, calcul, combat et plaisir. Cette dernière spécialité est interdite quelques années plus tard. À l'époque, on ne conçoit pas que les homolabs disposent d'une forme de contrôle sur leur vie. En réalité, ce sont des travailleurs esclaves exempts de droits. Cette situation abusive se révèle de plus en plus intenable et finit par exploser en 2060, quand un peloton de réplicants de combat est envoyé sur Encelade pour y étouffer une révolte des mineurs, androïdes eux aussi. Les soldats s'unissent aux rebelles et assassinent tous les humains de la colonie. L'insurrection se généralise rapidement, donnant lieu à ce qu'on a appelé la guerre REP. Bien que les androïdes se trouvent en net désavantage numérique, leur résistance, leur force et leur intelligence sont supérieures à la moyenne humaine. Au cours des 16 mois que dure la guerre, de nombreuses pertes sont à déplorer, autant humaines que techno-humaines. Dès lors, les réplicants conquièrent progressivement leurs droits civils. Ces progrès ne vont pas sans problème. Les premières années qui suivent l'unification sont particulièrement conflictuelles et de graves soulèvements ont lieu dans différentes villes de la Terre, Dublin, Chicago, Nairobi, avec de violents affrontements entre les mouvements pro-REP antiségrégationnistes et les groupes suprématistes humains. Finalement, la Constitution de 2098, première grande charte des États-Unis de la Terre, actuellement en vigueur, reconnaît aux techno-humains les mêmes droits qu'aux humains. C'est aussi dans cette constitution que le terme techno-humain est employé pour la première fois, étant donné que le mot répliquant est chargé de connotations insultantes et offensantes. Aujourd'hui, techno-humain, ou familièrement techno, est le seul terme officiel et accepté. L'existence et l'intégration des technos humains ont créé un important débat éthique et social qui est loin d'être clos. Certains soutiennent que, puisqu'à l'origine la création de réplicants comme main-d'œuvre esclave a été un acte incorrect et immoral, il faudrait simplement cesser d'en fabriquer. Cette possibilité est pleinement rejetée par les technos, qui la considèrent comme une option génocidaire. Ce qui un jour a existé ne peut pas revenir au limbe de la non-existence. Ce qui est inventé ne peut pas être désinventé. Ce que nous avons appris ne peut pas cesser d'être su. Nous sommes une nouvelle espèce et comme tous les êtres vivants, nous aspirons à continuer de vivre. À l'heure actuelle, les chaînes de production d'androïdes, aujourd'hui appelées centrales de gestation, sont dirigées à 50% par des technos et par des humains. Un androïde met 14 mois à naître, mais quand il le fait, il a un âge physique et mental de 25 ans. Malgré les progrès technologiques, on a réussi à le faire vivre qu'une dizaine d'années, plus ou moins vers 35 ans. La division cellulaire de ses tissus s'accélère de façon dramatique et il est victime d'une sorte de processus cancéreux massif, connu comme TTT, tumeur totale techno, contre lequel il n'a pas encore été trouvé de traitement et qui cause son décès en quelques semaines. Les musiques qui ont accompagné cette émission sont tirées de la bande originale de Capitaine Flamme, de Lys 31. Vous avez aussi entendu Sexy Boy de R, Nostrand et Montanita de Ratatat. Cette première émission a le mérite de donner la cadence pour les autres. Donc je vous retrouve le 22 octobre pour la prochaine de La Langue Brune. Au revoir.